Vous avez entendu ce qu'il a dit? La fête est finie.
Allez, vite ton sac, gamin! Qu'est-ce que tu sais à propos de ce bouquin?
D'abord, je veux savoir comment tu l'as eu, à quel endroit et à quel moment.
Hello Camille.
Bonjour Alex.
Ça me fait super plaisir de t'avoir sur les nouveaux épisodes. Alors pas de Stackcast, ça ne s'appelle plus Stackcast, ça s'appelle TechSource. Et donc ça va toujours parler des sources utilisées par les acteurs de la tech ou des acteurs qui mettent la tech sur écoute. Et donc tu viens ici vider ta stack, vider ton stack, c'était l'expression de Stackcast à l'époque. Maintenant sur TechSource, bah, le principe ça va être toujours le même. Pour commencer Camille, vrai ou faux, tu es business angel?
Oui.
Ok. Vrai ou faux, tu es en veille et tu t'intéresses beaucoup à l'industrie du new space?
Très vrai.
Pour l'instant, ça va. Vrai ou faux, tu es très intéressé et en veille aussi sur le monde des cryptos?
Vrai.
Vrai ou faux, tu es la cousine de Christophe Lambert?
Vrai.
Mais non.
Mais pas le vrai.
Ah oui. Je me suis dit, elle va me dire vrai. Bon, ok. Donc, bon, c'est évidemment pas assez long pour te connaître, mais les auditeurs vont apprendre à te connaître avec toutes les sources que tu vas nous partager. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va refaire le petit gimmick des premiers épisodes. Donc, je vais te demander ce que tu as sur la home screen de... Alors, c'est un iPhone, c'est ça?
Tout à fait.
Quel modèle?
Le 14.
Oh non. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas le petit modèle. Ok. D'accord.
Donc... Je suis une geek, hein. Premier Apple à 9 ans.
À 9 ans? Ah oui.
Power 1450.
Ah oui, donc c'est... Oui, bah je l'ai connu aussi, celui-là. Moi, j'étais plutôt PC. Alors, du coup, sur ta home screen d'iPhone, qu'est-ce que tu as?
Alors déjà, moi, j'ai des home screens d'iPhone différentes selon l'endroit où je suis. Donc, j'en ai une si je suis dans ma vie de tous les jours, une si jamais je bosse, une quand je suis off. Donc, sur celle du travail,
ouais.
Pour la petite blague, il y a une photo de billet. Oui. Ça veut dire que c'est de l'argent, c'est le moment où tu gagnes de l'argent.
Bien sûr.
Et donc là, c'est
des profils différents que tu peux customiser avec l'Apple, quoi.
C'est avec le mode concentration d'Apple que tu peux déclencher avec soit des endroits ou des moments dans la journée.
D'accord.
Donc moi, quand j'arrive dans le coworking où je vais travailler, ça se déclenche automatiquement.
En fait, je n'ai jamais essayé ce truc-là. Ça te géolocalise, ça te fait une automation.
Et c'est magique. Tu peux aussi, par exemple, quand tu es sur une mission et que ton client a un peu de problème avec les limites, dire qu'à partir de, par exemple, 21h, tous ces appels passent sur répondeur.
D'accord.
Et il ne le saura jamais parce qu'il pensera juste qu'il passe sur répondeur, alors qu'en fait, tu peux limiter à des personnes, à des applications, à des calendriers. Tu peux vraiment customiser. Je pense qu'il faut vraiment l'utiliser. Mmh. Je trouve ça hyper pratique, hyper utile. Et du coup, moi, ça me permet, quand je travaille, j'ai 5 applis sur mon home screen. J'ai mon agenda.
D'accord.
J'ai...
En mode travail.
En mode travail. J'ai mon carnet d'adresses. J'ai... mon Trello, j'ai mon WeWork pour accéder à l'endroit où je vais et mon authentificateur pour aller ouvrir ma boîte mail, mes mails, WhatsApp, téléphone.
Ouais, la base.
Et sauf que le WhatsApp et le téléphone, ça ne sonne que pour 6 personnes. Tout le reste.
T'as décidé que ça ne sonnerait pas.
C'est ça. Sauf si à ce moment-là, c'est mon client, donc je le rajoute dans une personne qui a le droit de sonner.
Et l'OS interne du mobile là, de chez Apple, enfin, vraiment sous-côté. Quoi. Enfin, les gens ne l'utilisent pas assez. Quoi. C'est...
Bah, tu vas voir, tu vas en apprendre pas mal avec moi parce que je suis une petite geek, maison complètement connectée. Et tu comprendras pourquoi c'est important pour faire de la bonne veille d'avoir une maison connectée.
Ah, une maison connectée. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Ouais. Bah, en fait, c'est ça hein, la question du podcast, c'est comment on passe du bruit au signal. Quoi. Et à un moment donné, c'est ce que disaient les premiers invités. Il y a déjà 3 ans de ça, c'est si tu veux faire de la veille correcte, il faut... Il faut à un moment donné limiter les notifications, il faut avoir un temps d'attention qui soit beaucoup plus focus.
Je vais te donner un seul exemple. J'ai gagné à peu près 1 livre par semaine juste en faisant que mon portable ne rentre plus dans ma chambre. Donc, c'est-à-dire que chez moi, j'ai un Siri et j'ai HomePod. Donc, si jamais j'ai un doute sur mon agenda du lendemain, je demande à Siri quel est mon agenda.
Ouais.
Je peux fermer mes lumières, je peux ouvrir mes volets. Mon autoradio se déclenche le matin, toi, toute ma vie, mais mon portable ne rentre plus. Du coup, j'ai le matin, je ne cherche pas mon portable, ce qui est en train de charger dans le salon.
Et si tu passes par quoi? Par Alexa?
Non, par Siri.
Non, par Siri. Ah, c'est Siri. Bah, oui,
J'ai plein d'automatisation, donc mes volets s'ouvrent tout seuls avec la lumière. Puis là, se déclenche le journal de France Info le matin. Voilà, tu vois.
Comment ça s'appelle déjà? C'est les shortcuts ou je ne sais plus comment ça s'appelle?
C'est les raccourcis.
C'est les raccourcis, ouais.
Exactement.
Ok, donc tu as un profil travail, tu as d'autres profils?
Oui, j'ai le profil vie de tous les jours. Donc là, il y a toutes mes applications, tout est disponible. D'accord. Après, j'ai un profil que j'appelle repos. Ça veut dire que je veux zéro personne qui m'embête, sauf deux, trois personnes que j'ai nommées et des appels de mes favoris. Et sinon, j'ai le profil temps off. Alors là, je sais juste ce qu'il y a dans mon agenda plus tard pour pas louper le rendez-vous.
Et puis des apps un peu
mainstream. Juste, je regarde juste le...
Off, digital detox.
C'est ça.
Ou des trucs comme ça.
Exactement. Mais juste, tu sais quand est ton prochain rendez-vous pour éviter le cold.
Ok. Ouais, j'ai jamais eu d'invité qui customisait ses profils.
Plus ça se populate sur ton iPad, sur ton ordinateur.
Ouais.
Donc en fait, tous mes profils sont alignés les uns avec les autres. Et donc quand tu vas m'écrire à ce moment-là, tu vas avoir une pastille comme quoi mes notifications sont masquées. Donc je ne vois pas ce que tu es en train de m'écrire. Donc je ne suis pas en capacité de te répondre.
Oui, t'es pas tenté quoi.
Et puis surtout, la personne se comprend en face que je ne peux pas répondre parce que je ne l'ai pas vu.
Oui, il y a une notification qui lui dit allez.
J'envoie ce statut-là.
Ouais. Bon, bah écoute. Selon les profils, et t'en as deux autres aussi, les profils. Non, t'as off, perso, enfin non, tu as travail,
repos,
temps off,
et toute ma vie, ça veut dire tout le reste du temps où il y a tout.
Ouais, ok.
Et toi, c'est pas la même photo sur le profil, c'est pas les mêmes pages, les pages sont customisées.
Ouais.
Voilà.
Et t'as fait ça quand en fait? Il y a un an, deux ans?
J'ai fait ça dès que c'est sorti. En fait, avant, j'avais dû créer une...
Parce que c'est à trois ans ce truc-là.
Ouais, en fait, avant, j'avais dû créer une partition sur mon ordinateur pour avoir un profil privé et pro. Parce qu'avant, je bossais sur un PC.
Ouais, t'as partitionné ton...
Et donc, c'était très compliqué.
Waouh, ouais. Faut pas merge les trucs. Ouais.
C'est ça, parce que j'aime bien séparer mes vies.
Ouais, complètement.
Voilà. Et donc, quand c'est sorti sur le... Donc, je m'étais dit, est-ce que je vais créer un deuxième numéro de téléphone? Bon, je suis une geek. Et voilà. Et c'était trop compliqué à gérer. J'ai même failli passer à PC à cause de ça. Et du coup, quand c'est sorti, je l'ai tout de suite utilisé. Quand je fais du vélo, je vais aussi créer un mode vélo.
Ouais, avec Spotify disponible, des choses comme ça.
Non, plutôt, parce que pour le coup, en vélo, moi, je ne garde pas une carte. Hein, je suis monotâche. Hein, ça, par contre, tu vas voir, je fais rarement deux choses à la fois.
Mm. OK. Eh bien, c'est déjà super complet. En termes de sources, on va s'attaquer un peu à tes lectures. Newsletter, blog, j'imagine que tu lis beaucoup. Donc, on a vu que tu étais en veille sur tout ce qui est New Space, l'économie du New Space. Tu peux peut-être nous en dire un petit mot sur ce que c'est, cette industrie. Et puis, tu es en veille aussi sur les cryptos. Ou le Web3, comme on dit en général. J'imagine que tu as pas mal de lectures. Alors, peut-être un petit mot sur les deux industries là que tu couvres.
Alors, en fait, c'est même plus que ça, on va dire. J'ai les industries que je couvre de façon récurrente. Donc, c'est le New Space. En clair, c'est toute l'industrie spatiale actuelle. Post, c'est la NASA et l'ESA qui ont tous les pouvoirs, on va dire. Donc, tout ce qui est en train de se passer maintenant avec SpaceX, avec The Exploration Company et tout ça. Donc, c'est plein de startups, plein de projets différents. Plein surtout de verticales qui ne sont plus que dans le space, avec de l'agriculture et du space, de la navigation et du space, de l'automobile et du space, voilà. Et après, tu as les cryptos, mais plutôt les digital assets, pour être plus courant.
Ouais.
Le Web3 Gaming, je suis de très loin, mais ça ne m'intéresse pas vraiment.
Ouais, okay.
Parce que voilà, j'ai pas cette appétence-là. La régulation crypto, et puis du coup, en fait, moi, je viens de la banque, donc j'adore les fintech, j'adore la banque traditionnelle, j'adore le procès de FTX en ce moment, je me régale. Franchement, c'est des purs moments de plaisir de lire tout ça. Voilà. Et donc, je fais aussi beaucoup de veille géopolitique parce que je trouve que l'économie, ça a beaucoup d'impact sur la situation économique et donc sur quels impacts ça va avoir sur tes clients, sur les startups que tu aides.
Ouais.
Tu vois, par exemple, moi, tout de suite, quand j'ai vu ce qui se passait en Ukraine, j'ai dit ça va avoir tel impact. Et là, Israël, bah, en effet, là, ça commence à avoir des impacts pour des clients tout de suite, maintenant, en plus de ce qui se passe aujourd'hui comme situation. Donc voilà.
Et c'est des industries qui...
Surtout dans les cryptos, il y a beaucoup de choses. En Israël, hein, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes, donc voilà.
Ouais.
Alors après, du coup, moi, en fait, j'ai des sources un peu... J'aime bien les papiers de recherche.
D'accord.
Bloomberg, ChatGPT, le dernier mémorandum de Vitalik. Moi, mes deux sources principales, c'est Epsilon et Harvard Business Review. Et en fait, je les lis de façon asynchrone. Alors, déjà, Harvard Business Review en anglais, hein, pas en français.
Oui. Alors pourquoi? Parce que la version française, tu penses qu'elle est un peu...
Parce qu'en fait, la version anglaise, elle a beaucoup plus d'avance. Et la version anglaise, c'est souvent des études, alors qu'en français, c'est plus du sentiment. Mmh. Et moi, ce que j'aime dans Epsilon et Harvard Business Review, c'est le côté factuel.
Ouais.
Donc, c'est pour ça que je suis assez fan de ça. Mais par contre, je ne lis pas à chaque fois que ça sort. C'est que genre, à un moment donné, j'ai un sujet et je vais lire tout ce que j'ai à la maison sur le sujet. Donc, je vais reprendre tous les numéros d'Epsilon et je vais voir ce qu'il y a dessus.
Ouais.
Donc, c'est vraiment par tocade. Après, je lis pas mal les échos sur, quand je veux voir des trucs précis sur l'industrie.
D'accord. T'as les échos, il y a une section particulière des échos que tu...
C'est plutôt les grandes entreprises, 440, industrie, PME, pas la partie start-up. Plutôt la partie un peu old school, on va dire.
Okay.
Figaro, Le Monde, comme ça, j'ai les deux côtés Courrier International, j'aime beaucoup aussi.
Ouais.
Et après, je lis beaucoup de Peace dans The New Yorker, The Rolling Stone. En fait, moi, ce que je lis, c'est quasiment...
La presse, quoi. Ouais.
La presse et aucun livre business, c'est-à-dire que je ne vais pas lire comment gérer les réseaux sociaux. En fait, je trouve que ces bouquins, en fait, j'apprends quasiment rien.
Bah, tu apprends tout dans la table des matières, quoi. Enfin, dans le sommaire.
C'est ça. Et donc, du coup, je suis très déçue. Donc, ce que je lis plutôt, c'est des biographies.
Ouais.
Pas mal de choses sur le New Space, la dernière bio de par exemple, d'Ashley Evans, d'Elon Musk, voilà. Ouais, je lis pas mal aussi de BD, parce que je trouve ça hyper intéressant. Là, je lis celle de Laurent Dordet qui est sortie sur l'IA,
ouais.
Dream Machine, parce que je trouve que c'est une autre façon de voir. Le seul livre que j'ai lu un peu plus business, c'était celui d'Olivier Sibony sur le management, parce que c'est des chapitres qui finalement ressemblent à un article d'Epsilon. Et après, tu as les sources.
Très digeste, quoi.
C'est ça. Et après, sinon, je lis énormément de science-fiction.
Ouais.
Des histoires où tu as entre 3
anticipation et dystopique.
C'est ça. En fait, c'est dystopique, mais très proche de ce qui se passe. C'est très ressemblant à la Terre, mais c'est généralement c'est du collectif qui vont régler une quête, régler des problèmes. Et souvent, d'ailleurs, c'est des science-fiction un peu enfantines.
Ok.
Tara Duncan, le gardien de la galaxie.
Ouais.
Souvent avec des femmes, d'ailleurs, qui mènent la bataille. Et donc, voilà. Et ça, je trouve ça intéressant parce que c'est pas Orwell, c'est pas aussi loin.
Ouais.
C'est un entre-deux. Et ce que je trouve intéressant, moi, je prends souvent beaucoup de leçons de management et leadership dans ces livres.
Hyper intéressant. Bah, de toute façon, la science-fiction, c'est toujours idéal.
C'est ça.
La science, en général, mais...
Alors, en newsletter, tu vas être déçu. J'ai regardé. Je lis pas tant de choses que ça. Je lis...
Il y en a trop.
Ma préférée, celle qui m'annonce ma fin de journée et qui met de bonne humeur à chaque fois, c'est Time to Sign Off.
Ouais.
Je l'adore. Parce qu'en fait, je suis très au courant de ce qui se passe là-dessus. Une deuxième, auquel j'étais abonnée, mais que je ne lis plus, ce qui m'intéresse, c'est juste le daily, c'est Snowball.
Ouais.
Le daily WhatsApp est bien, mais la newsletter, pour moi, maintenant, c'est plus à mon niveau. Donc, voilà, je suis abonnée, mais toi, si je pouvais avoir que le daily, je le prendrais.
Ah, c'est très grand maintenant, il y a plein de choses.
Bah, c'est trop grand, et puis surtout, bref, c'est pas forcément en adéquation avec ce que moi, je regarde. Après, je lis des newsletters comme Milky Road, Simon Taylor, j'aime beaucoup ce qu'il fait sur les fintechs.
Ouais, bah c'est un Substack, lui.
Ouais, c'est un Substack. Après, c'est plutôt, genre, à un moment donné, je vais faire un focus et je vais lire tout ce qu'il a fait. Ou The Block. Là, je suis en train de découvrir The Generalist.
D'accord.
The Rest of the World, j'aime beaucoup.
C'est quoi, ça c'est...
The Rest of the World, c'est une newsletter avec 4-5 news de trucs un peu what the fuck. Par exemple, il parlait de d'imprimer des maisons en 3D.
Ouais.
Donc, c'est 3D Icon. C'est une boîte qui va aussi imprimer sur la Lune l'habitat des astronautes. Donc, du coup, tu découvres ça par le prisme de la Lune. Et après, je découvre qu'en fait, ils impriment déjà des maisons dans le Texas.
Ouais.
Avec du concrete.
Ouais. C'est la méthode impression 3D.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent on fait que l'extérieur et après, on prend des artisans pour faire l'intérieur.
OK.
Donc, finalement, en newsletter, je lis pas tant de choses que ça.
Ouais.
Et puis, souvent, en fait.
Déjà pas mal.
Oui.
Tu gères comment toutes tes newsletters
Alors, pour le coup, dans mon stack de veille, c'est vraiment, quand je te dis low cost, j'ai 3 outils.
Ouais.
C'est-à-dire que j'utilise Stoop Inbox.
Ouais,
pour recevoir les newsletters, sinon ta boîte, sauf Time to Sign Off qui arrive dans ma boîte.
Ma vraie.
C'est pour te dire à quel point je l'aime. Voilà, après, j'utilise un deuxième outil, c'est un groupe WhatsApp avec moi-même où je copie-colle les liens des articles qui m'intéressent. Et après, ça, je le dump quand j'envoie un lien plus de 2 fois à quelqu'un.
Tu le sauvegardes.
Je le sauvegarde dans un Trello avec des cartes.
Ouais.
Et finalement, dans mon Trello, je dois avoir une quarantaine de documents, c'est des études, des trucs un peu
de goldmine, quoi.
C'est ça.
Si tu tombes sur ton Trello,
C'est ça, mais j'envoie souvent, parce qu'en fait, quand j'envoie un truc plus de 2 fois, je me dis que
ça vaut
le garder. Voilà, c'est tout.
D'accord, donc tu gères ta knowledge comme ça un peu, quoi.
Après, l'avantage, c'est que quand je lis un truc, j'ai de la chance qu'il reste normalement à vie dans ma tête. Donc j'avoue, j'ai cet avantage concurrentiel de ne pas avoir besoin.
Ouais, tu retiens bien.
C'est ça.
C'est assez frais. Tu documentes, mais bon, finalement, tu replonges un peu dans ton Trello des fois ou pas?
Oui, bah là justement, aujourd'hui, j'ai envoyé 3 études à une amie dans un cabinet comptabilité qui se demandait comment avoir plus de femmes.
Ok.
Et j'ai envoyé une étude de Harvard Business Review qui explique que quand tu mets 2 femmes dans la shortlist, la femme est choisie pour ses compétences et plus parce que c'est une femme.
Ok.
Tu vois, des choses comme ça.
Et t'as fait search dans ton Trello?
En fait,
j'ai rangé là.
En fait, c'est article, podcast, vidéo, et voilà.
Article, c'est hyper bien structuré.
Et après, juste un truc qui est très important.
Ouais.
Pour faire ma veille, en fait, moi, je ne fais pas vraiment confiance à ce que je lis. Généralement, je trouve un expert, un espèce de un peu géo-trouve-tout fou.
Voilà, tu te mets derrière.
C'est ça. Non, c'est généralement, j'ai eu la chance de le rencontrer à un endroit. Et après, je lis tout ce qu'il publie. Et ce mec est tellement brillant que genre, j'apprends plein de choses.
Ouais.
Par exemple, sur le space, j'ai Nasser Chahat qui bosse à la NASA.
Ouais.
C'est Il a bossé sur le système de communication d'Ingenuity. Et après, il y avait la mission d'Europa qui a failli être annulée par la NASA parce qu'il fallait un routeur pour permettre à la mission de réaliser. Et lui, il s'est dit, bon, bah, comme il faut enlever ce routeur, comment je peux créer une antenne pour bypasser ce routeur autour de la planète où on veut aller. Et donc, bah, il a créé un nouvel type d'antenne. Toi. C'est ce genre de personnage-là.
Ouais. Et puis, c'est souvent des gens qui sont très généreux.
C'est ça, hyper brillant et que moi, j'adore mettre en avant parce que c'est des gens exceptionnels et qui clairement, n'ont aucune idée de à quel point ils sont exceptionnels.
Mais tu vois, juste à ce stade de l'épisode, il y a deux choses que je retiens tout de suite, là. C'est que passer du bruit au signal, aujourd'hui, finalement, le réflexe, c'est pas forcément d'aller sur les réseaux. Tu vois, tu reviens à la presse, tu reviens à des choses qui sont éditées, qui sont travaillées. Et puis, le deuxième chose que je retiens, c'est qu'il faut pas suivre le quoi, mais suivre peut-être le qui. Et en faisant ces deux choses-là, déjà, on arrive déjà à avoir beaucoup plus de signal, c'est ça ?
C'est ça, parce qu'en fait, c'est pas des gens qui sont là pour faire du buzz, c'est des gens qui là parlent de leur passion.
Ouais.
Et donc, du coup, c'est pas du tout le même état d'esprit. Et puis, en plus, ils sont hyper généreux parce qu'ils... En fait, généralement, c'est des pépites qui s'ignorent.
Ouais. Ils ont un thought leadership un peu... Alors, il y en a qui l'ont parce qu'ils le travaillent, il y en a d'autres qui...
Et puis, en plus, ils te font plein d'intros parce qu'ils sont tellement contents que tu t'intéresses à leur sujet... Que, en fait,
là, tu parles des gens qui sont pas connus, enfin qui sont très
non,
très talentueux.
Quand je te parle de Nasser, il est quand même NASA Fellow de l'année, donc il est reconnu par la NASA.
Il est reconnu, mais pas forcément.
Mais
il entretient
pas. Bah, en fait, il a pas d'entreprise, il est employé de la NASA.
Ouais.
Bah, sur les réseaux sociaux, il est pas là, il a rien à vendre.
Ouais, il
est juste là pour parler de sa passion, de publier ses papiers de.
C'est un creator. C'est pas un influenceur, c'est un creator.
C'est ça.
Ouais. Bah, une vraie différence entre les deux. Donc suivre le qui, suivre les personnes.
Et je vais te donner une super pépite, c'est Simon Taylor aussi.
Simon Taylor, ok.
Extraordinaire.
Donc un peu un profil comme ça ou une personne qui est
très... Bah, lui, c'est, en fait, en plus, il écrit sur sa Substack des trucs très tedious, très longs. Et là, il a lancé Les Sardines. Je suis hyper fan.
D'accord.
Après, il y a un truc que les gens ne regardent pas souvent, je crois que ça s'appelle Insight. C'est un truc qui prend les bilans d'entreprise et qui split les coûts et les revenus. Et je trouve ça hyper intéressant. Il prend, par exemple, le résultat d'Apple et il te split par division en coûts et revenus. Et je trouve que ça permet, c'est une cartographie, ça permet vraiment de comprendre...
C'est une newsletter, ça.
App Insight, alors ça, tu le trouves sur LinkedIn.
Ouais.
Et c'est public à résumément tous les bilans.
Wow.
C'est hyper intéressant. Franchement, moi, j'adore quand je pense avoir compris un business et que je vais là-dessus. Généralement, je me rends compte que j'avais trop près. Et puis aussi, un truc que j'adore, moi, c'est comprendre les business models.
Ouais.
Parce que je trouve ça passionnant.
Ouais.
Et toi, par exemple, j'ai découvert un business model que je trouve hyper clever, celui de Reese Witherspoon.
Ouais. C'est un empire autour d'elle.
Bah, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle a plein de followers sur Instagram. Elle dit, je veux aider les femmes et produire des films avec plus de gens. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée un book club dans lequel les gens, en fait, vont valider les futurs scénarios qu'elle va après produire en film, finalement.
Super smart, ouais.
Et en plus, elle met dans son contrat où elle présente le livre en disant « Pourrez, vous en vendrez donc plus », mais elle a la priorité sur l'achat des droits. Et donc, il faut seulement qu'elle dise qu'elle ne veuille pas les droits pour que quelqu'un d'autre puisse les acheter.
D'accord.
Donc, c'est hyper puissant. Ça veut dire qu'elle se réserve...
Donc, elle a un club de scénaristes.
Non, en fait, les gens lui donnent son livre en disant que tu le mettes dans ton book club.
Ouais.
Et du coup, si les gens du book club ont adoré ce livre, elle se dit il y a potentiel d'avoir un très bon film.
Ah oui,
parce qu'il y aura forcément du public. Ouais. Parce qu'elle a énormément de gens dans son book club.
Super curation de bouquins avec de...
Et donc, coup, elle prévalide les scénarios. En fait, c'est une façon de voir s'il y aura des gens au bout de...
Ouais, c'est super smart, ouais. Ouais, de faire en communauté comme ça, un petit club.
Ouais.
Et ça sur ce côté un peu... Bah, réseaux sociaux, tu parlais de LinkedIn tout à l'heure. Est-ce que tu utilises, toi, c'est Twitter, LinkedIn,
Moi, j'utilise beaucoup Twitter, mais en suivant ces experts dont je parlais. Ouais. Après, souvent, en plus, il y a des gens qui publient des liens. Par exemple, Laura, Laura, sa newsletter, pour moi, elle est trop dense. Elle est trop marketing, mais
c'est Laura...
beaucoup que ça.
Ouais.
Mais par contre, c'est le comment du pourquoi, sa newsletter. Mais par contre, les liens qu'elle publie sur Twitter, pour moi, c'est largement suffisant. Et donc, en fait, je ne lis plus sa newsletter.
Ouais.
Je suis désolée, Laura. Mais par contre, je lis tous les liens qu'elle publie sur Twitter. C'est pour moi, ça me suffit.
Ouais. T'arrives, tu veux de la matière brute, quoi.
C'est ça. Moi, j'aime bien la longue piste, toi. J'aime pas la version édulcorée. Et d'ailleurs, c'est ce que je reproche souvent aux articles. C'est que moi, j'aime bien savoir ce qu'il y a dans le contenu de l'article. J'aime pas la phrase putaclic.
Ouais, l'accroche.
C'est ça.
Donc, t'es plutôt Twitter que LinkedIn, quoi, finalement.
Et oui.
Sachant que maintenant, Twitter n'est plus limité en caractère, donc t'as dépaté, quoi.
Ouais. Après, LinkedIn, moi, j'aime bien aussi parce que tu découvres des tendances, des choses business. Mais je suis plutôt côté américain, mais tous les grands créateurs américains hyper connus. Moi, j'ai fait la classe Twitter de Sahil Bloom il y a longtemps, en 2021.
C'était quoi ? C'était une masterclass ?
Non, c'était une classe. On était une cohorte de 25 personnes. C'est des gens qui, aujourd'hui, ont des millions de followers sur Twitter. Alors, moi, je suis pas... Mais j'étais hyper intéressant de voir tous ces gens-là, de discuter avec eux.
J'utilise des outils en particulier, des fonctionnalités de LinkedIn en particulier pour...
Eh ben, j'ai découvert une super fonctionnalité.
Ouais, il y en a des cachés. Il y en a des cachés.
Et je me demandais comment, que moi je suis premium, comment aller sur les profils en privé. Et à chaque fois, il faut aller changer dans l'antre du truc. Et alors, je vais vous donner le super truc que m'a donné un de mes...
Je connais pas.
Ça a mis dans mon coworking, parce que je le voyais passer sur le profil. Ouais. Et il me dit, là, je suis en mode privé. Je fais, mais comment tu fais? C'est hyper compliqué. Il y a une petite extension Chrome qui s'appelle Incognito, que d'accord. Tu actives en haut et qui fait que tu passes sur les profils en mode privé. Et quand tu l'enlèves, tu es en mode public. Voilà. Moi, j'ai plein d'extensions Chrome. Je suis vraiment une geek en toute sa splendeur. Voilà. Et donc, c'est hyper intéressant.
Ouais. Et puis, on parle là de plugins qui n'ont rien à voir avec le sales, tu vois, où je grabe des choses. Parce qu'en fait, à un moment donné, sur LinkedIn, il y a eu beaucoup de choses qui sont développées en termes d'outils, mais tout tournait autour de la vente, du business. Et finalement, il y a quand même beaucoup de choses aussi sur l'information, la manière de la gérer, la manière de la traiter. Moi, je trouve qu'ils pourraient aller plus loin. Je crois qu'ils ont mis en place un système de... Ben non, ils ont retiré les hashtags. Donc...
Oui, maintenant, c'est pour rire.
Ouais, c'est pour rire. Mais... Bah, Sylvain Tillon, tiens, que j'avais interviewé sur les premiers épisodes, il avait créé une petite app qui était pluggée à Chrome, et je crois que ça te permettait d'être en veille sur des concepts.
Bah, Bruno a parlé de ça dans une de ses newsletters, je crois, où il crée des fausses pages pour sauver des éléments de recherche. Ça a dû sortir dans sa newsletter.
Et tu parles de Bruno
Friedansky, exactement, qui expliquait ça. Après, moi, franchement, la veille que je fais sur LinkedIn, c'est plutôt pour découvrir des gens que des choses.
Ouais.
Et après, je vais aller les voir sur Twitter.
Ou les voir en vrai, parce qu'en fait, c'est ça aussi.
Oui, alors
c'est des vraies personnes.
Je vais souvent dans les DM des gens, clairement, parce que je trouve que ça change complètement la relation. Et en fait, tu découvres généralement des gens qui ont l'air pépites. C'est pas des pépites, en fait, c'est des mines d'or. Tellement ils sont généreux, sympathiques, ils te parlent de choses. Et puis, tu te rends compte aussi, même moi, en plus, en étant dans plusieurs industries, quand je parle aux gens de l'industrie, en ce moment, dans New Space, tu te rends compte que quand c'est ta boîte, finalement, t'as pas vraiment le temps de voir ce qui se passe autour. Et donc, tu loupes des trucs très basique, qui se passe autour parce que juste, t'es vraiment sur ta verticale propre, sauf que ça peut faire bouger beaucoup de choses. Tu vois, là, par exemple, le fait qu'hier, on ait annoncé que Vega a des problèmes de moteur, sachant qu'Ariane 6 a déjà pas très en forme, bah là, tu comprends que la base de lancement, il va rien se passer en clair avant l'année prochaine. Donc là, ils l'ont fermé. Donc là, il y a des gens qui sont quasiment au chômage technique pendant jusqu'à la fin des prochaines.
Et ça, tu l'analyses parce que
parce qu'en fait, il y a deux semaines, j'ai aidé une banque à faire le panorama des différents lanceurs européens. Et du coup, j'ai beaucoup bossé sur les lanceurs parce que je suis évaluatrice à l'accélérateur du CNES Space Founder. Donc, j'ai reçu plein de dossiers. Du coup, j'ai dû me renseigner sur plein de sujets, dont les lanceurs. Et du coup, quand tu vois qu'Ariane 6 est en difficulté, tu rencontres des gens du CNES qui t'expliquent « Non, mais on est tranquille parce qu'on a Vega. » Et après, tu lis que Vega, lui aussi, est en difficulté. Bah, après, tu mets les bouts du puzzle en même temps et tu dis « Donc, logiquement, puisque maintenant, les Russes ne partent plus de là-bas, ils vont devoir fermer. » Ça n'a pas été annoncé comme ça, mais ça paraît évident que c'est la prochaine annonce.
Et Twitter, alors? Un petit peu.
Ouais, Twitter, enfin, c'est vraiment, c'est du serendipity.
Tu trouves que ça, comment ça évolue pour toi? Ça évolue dans le bon sens ou même pas?
Déjà, moi, j'ai commencé aussi à unfollower pas mal de trucs qui étaient là pour avoir du vu. Tous les trucs sensationnels, j'enlève. Moi, c'est plutôt américain et des experts. En fait, c'est des experts que je découvre. Je me réalise que les experts de LinkedIn, quand ils basculent sur Twitter, c'est genre next level. C'est comme si c'était la version collège sur LinkedIn, et sur Twitter, c'est la version lycée ou master.
Ouais, on s'adresse aux pairs, alors que sur LinkedIn, on s'adresse plutôt au 101. Quoi.
Et aux clients.
Et aux clients, ouais.
On n'est pas... Parce qu'en fait, à la fin de la journée, LinkedIn, c'est un réseau où tu es censé trouver normalement tes clients.
C'est vrai que moi, sur Twitter, je tweet... Je pense à un pair. Je pense à quelqu'un qui a du même niveau.
Plutôt, tu partages avec en disant « Tiens, je suis tombé sur ça, peut-être que ça peut vous intéresser. » Parce qu'en plus, maintenant, tu peux tomber sur tellement de choses... En plus, souvent, je tombe dans des rabbit holes, c'est-à-dire que genre...
C'est Twitter.
Il y a deux semaines, mon sujet, c'était la logistique dans l'espace. Donc, j'ai lu comment tu fais pour te nourrir, comment tu fais pour gérer les déchets, comment tu fais pour te ravitailler, comment tu fais pour trouver du carburant, comment tu fais pour gérer ta santé, comment tu fais pour faire du sport. Et alors là, tu découvres plein de trucs. Tu découvres qu'aujourd'hui, tu ne peux pas faire ta lessive sur l'ASS. Donc, tu pars avec 6 t-shirts. Donc, je n'imagine pas dans quel état ils reviennent au bout de 6 mois. Parce que de la lessive, ça veut dire de l'eau. Et l'eau, ça coûte très cher.
Et t'es tombé dans ce rabbit hole-là.
C'est ça, voilà. Et alors là, j'ai lu tout ce qui passait sur le sujet. Et donc, en fait, c'est pour ça vraiment que je suis un peu en asynchrone. C'est genre, je découvre un sujet et je lis tout ce qui existe. Puis quand je suis suffisamment sereine sur le sujet, je le laisse tomber. Puis après, je vois passer 2-3 trucs. Mais en fait, j'ai une base assez solide pour ne pas avoir besoin de faire une veille permanente sur ce sujet. Une fois que j'ai fait ma base, ma fondation, je suis tranquille.
D'accord. Et tu utilises la. T'as quoi, on parlera tout à l'heure des abonnements payants que t'as. Mais est-ce que tu payes Twitter?
Non.
Non. Donc, t'as pas accès à l'ancien TweetDeck. Tu sais, c'était TweetDeck, c'était plusieurs fils Twitter, les uns à côté des autres.
Alors si, moi, par contre, j'ai fait mes listes d'abonnés, j'ai créé des listes.
Voilà, ok, donc tu utilises les listes.
Okay. Ouais.
Ça, c'est... Bah, c'est ouais, moi, je les ai beaucoup utilisées, les listes. Je suivais des gens comme, tu vois, intéressants comme toi, là, et j'allais voir, en fait, les listes qu'ils avaient, et généralement, c'est là où tu tombes sur des mythes d'or.
Et après,
quand elles sont bien faites.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est quand tu crées une liste avec des gens dont tu es assez fan, ces gens vont commencer à voir ce que tu fais, parce qu'ils sont notifiés que je fais des listes publiques. Genre, je crée les femmes dans la crypto.
Oui, il y a une notif qui dit que tu viens de créer une liste, ouais.
Avec eux dedans. Et donc, du coup, eux viennent sur ton profil. Du coup, c'est assez marrant parce que ça peut créer des interactions juste basées sur rien.
Oui, oui. Bah, par contre, est-ce que les gens savent quand tu t'abonnes à une liste?
C'est des listes publiques, c'est pas des listes privées.
Mais quand tu t'abonnes à une liste, est-ce qu'il y a une notif vers la personne qui l'a créée en disant il y a quelqu'un qui s'est abonné à telle?
Oui.
Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'elles sont publiques, ouais. Non, non, mais les listes, c'est voilà. C'est, si vous connaissez pas un, c'est sur le profil Twitter des gens et vous allez sur leur liste. Tout le monde n'en a pas, mais si. Mais voilà, si vous suivez des comment on appelle ça, des experts, subject matter experts, hein, vous allez souvent trouver des listes, des curations très bien faites, très très sous-cotées. Alors on a fait les newsletters, on a fait un peu les réseaux sociaux, podcast, chaîne, tout ce qui est vidéo, audio.
Alors vidéo, je fais quasiment rien, c'est pas du tout mon...
T'es pas sur YouTube, t'es pas en train d'allumer YouTube pour...
Alors si, si, alors, non c'est pas vrai, sur YouTube j'adore deux personnes, c'est Viviane Syllabus qui fait... des petits épisodes genre pourquoi est-ce que l'ouverture facile termine toujours à droit, pourquoi est-ce que le sopalin a des bulles.
Le saviez-vous?
Non mais c'est hyper intéressant parce qu'en fait je suis tombée dans ce rabbit hole là parce qu'à un moment donné je voulais changer ma balance connectée, je comprenais pas pourquoi quand j'additionnais les pourcentages ça faisait plus que 100%. Donc je me suis dit Camille t'es débile, et en fait après j'ai compris que c'était un pourcentage basé sur une moyenne, donc je suis tombée comme ça. Après j'ai regardé comment marchaient les montres connectées, et en fait elle fait plein de vulgarisations scientifiques sur des sujets. Et je trouve ça hyper intéressant parce que je me suis toujours demandé pourquoi l'ouverture facile du Kinder Bueno, et bah, il marchait jamais et il s'ouvrait toujours sur le côté avec une certaine façon. Parce qu'en fait, il faut en mettre deux, sinon l'ouverture se fait mal et ça se referme tout seul. Tu vois, et ce genre de détails, moi, j'adore.
C'est comme la box des Mac, quand tu achètes un Mac ou un iPhone, c'est long. Et quand tu enlèves le truc, mais c'est fait exprès, pareil.
Je ne m'étonne pas de... C'est comme l'autocollant. Combien on a d'autocollants chez nous, Apple, à chaque fois?
Ah oui.
Tu sais d'ailleurs que tu peux... Certains, il y a un business pour revendre tes boîtes parce que comme ça...
J'en ai plein. Bah, je sais pas quoi en faire.
Bah, tu peux les revendre entre 10 et 15 euros. C'est impressionnant parce qu'il y a des gens pour du secondaire, ils reprennent des vieilles boîtes.
C'est pas vrai. Mais pourquoi?
Bah, en fait, à un moment donné, quelqu'un rachète j'imagine un iPhone sur Buy par 4 et ils le vendent comme un neuf.
Ouais,
quand tu as la boîte, tu peux pas forcément savoir que c'est pas un neuf.
Ouais, donc c'est d'accord. C'est hyper smart. Je savais pas qu'il y a un marché secondaire des boîtes. Non, mais ça fait sens avec le marché de l'occasion. Donc pas trop de. Ouais, je suis podcast. Il y en a un au moins.
Allez, Silicon Carnet, clairement.
Ok,
il y en a, ouais, il y en a un autre que j'adore avec Solène Niederschön, c'est Finskel.
Ouais, Finskel, ouais.
Je suis hyper fan de ce qu'elle fait. Sur le space, j'ai pas trouvé grand-chose. Podcast que j'adore, mais j'arrête pas de lui reprocher, c'est qu'il est trop dense, donc je peux rien faire d'autre en même temps. C'est le podcast de Flavie, The Board. Elle m'énerve parce que je peux rien faire d'autre. C'est-à-dire que je suis obligée de prendre des notes et je lui en veux pour ça, parce que du coup, je ne peux pas l'écouter en faisant autre chose. Même pas la vaisselle, tu peux rien faire d'autre.
Flavie Prévost, donc elle a un super podcast. Donc le board, bien entouré, c'est ça?
C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait des mini-séries sur un sujet. Donc il y a des séries qui ne m'intéressent pas, donc je n'y vais pas. Mais quand il y a un sujet, si tu savais le nombre de séries que j'ai recommandé à mes amis qui se lancent, c'est impressionnant. D'ailleurs, dans ma stack de trucs que j'envoie souvent, il doit y avoir au moins 4 séries.
Ouais, c'est ça. C'est donc ça, c'est une émission pour les freelances, les entrepreneurs, l'hyper-freelancing.
C'est 5 fois 10 minutes en plus, donc toi, tu t'en prends pas comme Generation Do It Yourself.
Très bien, c'est très bien.
Après. Je dis aussi ça, il y a un podcast que j'ai adoré mais qui n'existe plus, c'est La Combinaison, qui faisait des très longs, des biographies et qui parlait pendant 1h30, 2h à des invités, mais ma vie, mon œuvre, et vraiment qui allait dans les détails. Je trouvais ça hyper intéressant. Il y en a un épisode sur Nasser Chat extraordinaire. Il y a un épisode sur Barbara Belvisi aussi qui est dans le space, hyper intéressant. Il a d'autres gens qui sont aussi passés sur Generation Do It Yourself, mais je préfère sa version, lui il va beaucoup plus loin. C'est vraiment très préparé.
La Combinaison.
C'est ça.
Ok, ça existe. Enfin, ça existe.
C'est fini.
C'est fini, d'accord.
Mais c'est toujours d'actualité pour les gens.
Ouais, ça, c'est pas dégradé. Et alors, du coup, on a vu tout un tas de choses. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas creusé?
Les applis.
Les tools. Voilà. Tools time.
Alors, bon, je vais être très décevante. Moi, je comprends le modèle du SaaS, donc Business Angel. Mais moi, j'aime pas le fait de ne pas posséder les choses. Pour te dire, je ne paye même pas mon abonnement Spotify. J'ai préféré acheter des vinyles avec l'équivalent de mon abonnement Spotify.
Ah ouais.
Parce qu'en fait, moi, je passe souvent d'Apple à Spotify pour des raisons...
C'est gros dans ton sac. Comment tu fais ?
Oui, mais déjà, moi, j'écoute pas de la musique quand je travaille. Ouais. C'est pas compatible.
C'est tranquille à la maison.
Et juste, je ne fais que écouter de la musique. Et d'ailleurs, quand je lis, j'écoute du jazz sans parole. Blablabla, vraiment, ouais. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Alors, en appli que je paye, je pense que... Donc, moi, je ne suis pas du tout fan de la suite Google. Pour moi, c'est à jeter. Je déteste cette suite. Moi, j'utilise...
Parce que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui déteste la G Suite. Parce que tu trouves que c'est...
Bah, parce qu'en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Moi, par exemple, j'ai fait des applications avec Excel, Google... En fait,
ah oui, d'accord, c'est limité en termes.
Bah en fait, moi, j'ai poussé les outils très, très loin. Donc, en fait, je fais mes présentations. Je n'utilise pas Canva, j'utilise PowerPoint. J'ai une super présentation avec tous les emojis que j'utilise depuis le début de ma carrière. Et donc, en fait, je ne fais que du réutilisation.
Eh oui.
Voilà, avec. J'utilise hyper fan d'Excel, mail d'Apple ou d'Outlook. Je suis sans. Donc, voilà. Donc, moi, c'est la suite Microsoft bien classique, c'est-à-dire PowerPoint, Excel et Word. Merci, App, quand même. Qui est une grosse appli, et Grammarly, version anglaise. Ça, c'est pour corriger l'orthographe.
Alors, Merci App, ça fait quoi déjà ?
Ça corrige l'orthographe en français.
D'accord. Oui.
Ça, si je la paye. Merci App, je la paye.
D'accord.
Grammarly, je ne la paye pas, parce que je ne fais pas assez de... Comme j'écris tout en anglais, j'en ai moins besoin que finalement... Je suis plus en difficulté en écrivant en français qu'en anglais, pour le business.
D'accord.
J'écris
le trois quarts. Oui, c'est ça. Tu es tout le temps en anglais. Donc,
c'est ça. Donc, voilà. J'utilise le CRM le plus cher de la Terre, qui s'appelle Contact d'Apple. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, tous mes contacts sont dans mon CRM d'Apple, et comme je suis un petit peu... En fait, le fait d'avoir passé 15 ans chez BNP Paribas, où finalement il y a beaucoup d'argent, mais beaucoup de projets, donc quasiment pas d'argent pour les projets,
ouais.
Je suis un peu la version bootstrappée tout le temps, donc moi je veux pas payer de CRM. Et alors donc je vais te donner mon secret. Moi, j'ai...
Donc voilà, c'était encore dans la suite d'Apple, enfin dans l'OS d'Apple.
Ça voilà, parce que déjà il est disponible partout.
C'est vrai.
Et ce que je fais, c'est que j'ai créé des codes dans mon contact. Et donc, par exemple, les gens en crypto, ça va être un petit sac d'or. Les gens dans l'espace, ça va être une fusée.
C'est dingue.
Les gens qui vont être dans Silicon Carnet, ça va être un piment.
Emoji par personne.
C'est ça.
Et ça, en un seul coup d'œil.
Et du coup, c'est cumulatif. Ce que tu cherches l'emoji, tu vas voir que, par exemple, Flavie, ouais. Elle va être dans elle est dans le board, elle est dans le Silicon Carnet.
Ouais.
Elle est dans Fleet, qui est le collectif de freelance Web3 auquel on appartient toutes les deux.
Ouais.
Et voilà. Et donc, du coup, je sais tout de suite. Et si après, un jour, j'ai un peu de courage, je crée un groupe intelligent sur mon ordinateur,
ouais.
Et je les passe dans la catégorie. Par exemple, mon médecin, je lui mets un stéthoscope. Tous les médecins, ouais. Ils sont avec stéthoscope. Ma famille, mes amis, tu vois. Et en fait, tout le monde a des codes comme ça.
Et tu peux pas mettre des filtres tout court de mots.
Bah, en fait, les filtres, si tu peux, mais moi, je préfère les emojis. Ouais, c'est ce que tu le vois tout de suite.
Tu le vois tout de suite. Ouais, tu comprends logique. Ouais. C'est immédiat, quoi. Ouais.
Et puis après, dans les notes, je mets plein de choses.
Mais alors, attends, tu es juste sur le répertoire. C'est-à-dire que tu es quand même obligé de mettre à jour. Les contacts. Que c'est...
Bah, en fait, c'est le seul répertoire que je maintiens, j'ai même pas dans mes mails.
Ah oui,
c'est qu'au seul endroit où il est.
Ah oui, ah oui, d'accord. C'est ton CRM, quoi.
C'est mon CRM. Bon, ouais. RGPD compliant, on n'y est peut-être pas au top du top, parce que j'ai pas forcément de la. C'est ça.
Ouais. Bon. Et notes, ouais, mais ça aussi. Alors, notes, moi, j'utilise quasiment.
Ah non, notes, pour le coup, je l'utilise quasiment.
Ah bon, tu utilises.
Ah non, moi, j'utilise papier crayon, désespérant.
Ah oui, non, mais.
Non, mais jamais, en fait. Ouais. Moi, là, j'ai un sac, j'ai un papier,
ouais, ouais.
Avec mon stylo plume. Je prends mes notes et après, je peux les jeter. En fait, j'ai cette grande chance qu'une fois que je l'ai écrit, ça rentre dans ma tête.
C'est le syndrome de l'anti-sèche. C'est, tu l'écris, tu l'as, t'as pris ton cours.
C'est ça. De la même manière, je ne lis plus sur Kindle ou sur mon iPad,
ouais.
Parce que je ne retiens pas ce que je lis. Donc, je lis, ouais. Que du papier.
Tout à fait.
Alors, mes voisins adorent parce que, ouais. Du coup, quand j'ai lu, ouais. Je mets en bas dans le hall, ouais. Pour qu'ils puissent récupérer. Donc, ils sont hyper contents.
Ouais, c'est... Non, mais ça, c'est clair que, les prises de notes papier avec, comment ça s'appelle, les super cahiers.
Okay. Ah non, mais moi, c'est même pas des bouquets. Et moi, tu sais, dès que tu vas dans un event, ils te donnent un goodies, un bloc-notes. Bah, toi, en ce moment, c'est un bloc-notes de cabinet.
Ah, mais, non, mais c'est prouvé que ça, tu retiens mieux. Il y a une mémoire épidermique, je sais pas comment.
Ah, il y a une étude, je pourrais te l'envoyer, qui explique que.
Volontiers.
C'est toi, c'est dans mon Trello, par exemple.
Ah, bah, allez, dans les show notes.
C'est ça.
Et donc, tu dis papier, crayon, pour les prises.
Et beaucoup de feutres. Quand tu me vois, wow. Travailler,
ah, ouais.
J'ai un bol de feutres. Je dois avoir 25 couleurs.
Ah ouais, d'accord.
En clair, je fais toutes mes presses d'abord sur feuille blanche. Quand c'est à peu près plus propre dans ma tête, là, je mets au propre. Ah,
mais dans les articles, tu vois, que tu consultes sur Internet, ça doit te manquer tout ça.
Mais non, parce que c'est pour ça que je lis des longs articles. Parce que du coup, ça a le temps de s'imprégner, tu vois.
Et tu les lis sur quoi, du coup? Tu lis...
Je les lis sur téléphone et voilà.
Ouais.
Après, si tu savais le nombre d'articles que j'imprime, merci mon abonnement WeWork et l'impression, c'est pas très écologique, mais en fait, sur des trucs où ça a un peu de réflexion, genre un papier technique avec des formules de maths et tout ça,
je te pose le
mot, j'écris à côté, tout ça.
T'as besoin.
Ah, c'est ça.
Nous allons au contact de l'info, quoi. Ouais. Ok, c'est déjà bien complet. Et alors, les abonnements payants, donc tu dis que tu n'en as pas trop.
Bah, j'ai Merci App.
T'as Merci App.
Je paye Microsoft.
Ouais.
Logique.
Ouais.
Je paye Stoopinbox pour les newsletters. Bah, Epsilon, pour le coup, NewsReview, c'est payant, ça.
Ouais, donc tu payes les deux revues, là, HBR.
Ouais, c'est ça. Après, tous les journaux, j'ai l'immense chance, et aussi, c'est peut-être pour ça que j'aime autant les journaux. Mon père était abonné à 35 journaux quand j'étais petite, et donc à l'époque, on n'avait pas de portable. Donc, comme je m'ennuyais beaucoup, je lisais tout ce qui arrivait à la maison. Donc, à la maison, il y avait LSA, Capital, Challenge, Libération, Les Échos, toute la presse régionale bretonne, parce qu'il adorait la PQR, Figaro, L'Opinion, il était un des premiers à lire L'Opinion, Libération, L'Express, tu vois, vraiment tous les trucs comme ça, Le Point. Et donc, en fait, moi, j'ai grandi avec ces journaux-là. Ouais. Et donc, mon père, aujourd'hui, a encore une dizaine d'abonnements. Et donc, j'utilise ses codes pour la version digitale, lui, il a la version papier. Et du coup, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je lis tout ça. Parce qu'en fait, j'ai été initiée à ça quand j'étais jeune. C'est pour ça aussi que j'aime tant ça. J'aime tant ces articles-là.
Du coup, je m'éloigne un peu de la trame, là, mais je me dis, la future génération qui arrive, ce qu'il faut leur apprendre, en fait, c'est dans un monde de surbruit, d'infobésité, c'est leur apprendre justement à avoir un esprit critique face à l'information. Toi, tu as eu cette chance, tu es tombé avec un papa qui avait plein de...
Bah, tu vas dans mes toilettes, mon portable ne rentre pas dans mes toilettes, j'ai des magazines. J'ai Epsilon, j'ai Les Incorruptibles, j'ai des trucs, comme ça, et c'est comme ça que je le lis.
Ouais.
Déjà, tu gagnes beaucoup de temps dans ta vie, et en plus, c'est plus intéressant.
Plus intéressant, et puis, c'est papier, hein, c'est des journaux papier.
Ah oui, c'est ça. Ouais. Moi, je n'ai pas de compte TikTok.
Ouais.
Et Instagram, je ne l'ai plus sur mon téléphone, parce que c'est trop dangereux. Et si je enlevais Instagram, je pense que je serais contente.
Ouais, alors TikTok, moi, je me suis laissé prendre par les recettes. J'ai appris 2-3 trucs.
Non, alors par contre, TikTok, le seul intérêt...
Très bien pour bien cuisiner en 2 minutes.
Ouais, moi, j'avoue, j'ai le carnet de ma grand-mère, ça aide pas mal.
Ah oui.
Là-dessus,
oui.
Parce qu'elle m'a appris à cuisiner, donc j'ai cette chance-là. Après, sur TikTok, moi, ce que j'adore, c'est les influenceurs Excel, par exemple. Je pensais que j'étais très forte en Excel, et t'as Madame Excel qui est extraordinaire. Mmh. Et ce que j'aime bien sur TikTok, c'est que ce que t'aurais eu sur YouTube en 25 minutes... Sur TikTok,
Regardes un peu TikTok.
C'est la seule que je fais. Ouais. Depuis qu'elle est arrivée sur LinkedIn, j'ai arrêté mon abonnement. J'ai arrêté TikTok grâce à ça.
Ouais.
Parce qu'elle est arrivée sur LinkedIn. Donc maintenant, je regarde.
Ouais, tu vois des experts qui sont justement qui viennent pas. Enfin, c'est pas des experts B2C, c'est des experts B2B qui arrivent, qui profitent de. Ouais, il y en a 2-3 qui arrivent et qui. J'en vois qui.
Toi, par exemple, tu as l'outil que tout le monde est hyper fan, c'est Notion.
Ouais.
Pour moi, c'est un outil hyper dangereux pour moi parce que ça me pousse à la procrastination. Il y a trop de possibilités. Moi, je ne suis bonne que sous la contrainte. Et qu'est-ce qui est bien avec un PowerPoint, c'est qu'au niveau contrainte, on est au max du max. Hein.
On ne va pas se faire des amis. Hein. Mais si j'ai lâché un peu Notion. Tu passes plus de temps pour moi à essayer de comprendre comment fonctionne l'outil. Il y a beaucoup de possibilités. Moi, ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, là, c'est que moi, j'aime bien l'aspect God View d'une feuille Excel, tu vois, d'une sheet Excel. T'as l'aspect GodView, t'as toutes les datas. Hein, et donc, t'es pas là.
Et t'as du drill down. Et puis surtout, moi, je fais lookup. Moi, en plus, j'ai fait des applications entières sur Excel. Toutes les applications que j'ai créées à BNP, j'ai d'abord fait un prototype sur Excel avec des typeforms et des choses comme ça, en VBA. Une fois que c'était validé, je demandais à ce qu'on appelle un RAD, c'est-à-dire c'est quelqu'un d'un peu plus développé, de me faire un truc plus sérieux. Puis après, généralement, on faisait une version Python. Puis quand on était serein, on allait faire une vraie appli.
Alors que le POC et le MVP derrière, c'était une cheat, quoi.
En fait, c'est ça. Mais souvent, c'est là que tu te rendais compte que ta superbe idée, en fait, c'était pas les bonnes sources de données. C'est pas ça. Parce qu'en fait, moi, je suis très feignante. Donc, quand je faisais une tâche plus de 5 fois, je me disais, et que je voyais que c'était récurrent, je me disais comment je l'automatise.
Et bien, alors, du coup, on va parler d'IA, là, maintenant, de GenAI. Tu comptais en parler un peu ou pas?
Ouais, parce que je suis par contre beaucoup ChatGPT.
C'est 3 quarts d'heure, quand même.
Ouais. Mais je suis désolée, je suis une grille qui est un peu pas s'en empêcher. J'essaye de lutter, mais.
Parce que. T'as l'air des macros, Excel et tout machin, mais là, tu vois, sur Microsoft, on arrive avec la suite Copilot qui est déjà disponible, je crois, sur Windows 11.
Moi, j'utilise ChatGPT, et c'est payant pour le coup.
Ouais.
Ce que j'adore avec ChatGPT, c'est que je l'utilise pour 2 cas d'usage. Soit je lui balance la réponse que je veux faire et il me fait une réponse polie et bien posée, et beaucoup plus articulée. D'ailleurs, je l'engueule souvent, ChatGPT, et je déteste la version française. Quand la version française, il passe sa vie à s'excuser. Alors qu'en anglais...
Il répond.
Voilà, c'est ça, il te répond. Soit on me demande de faire des recherches sur un sujet dont je ne connais absolument rien. Je dis à ChatGPT, quelles sont les entreprises du secteur? Là, il me donne des noms. Alors, je ne crois pas ce qu'il me dit. Je vais vérifier leur existence sur LinkedIn. Et là, j'utilise l'outil le plus sous-coté sous LinkedIn. C'est les pages associées. Donc, par exemple, tu vas trouver Kairos et tu vas voir les pages associées. Donc, c'est les entreprises qui sont dans le même domaine.
Oui, 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 un peu comme
et
ça.
Et c'est la même chose sur les experts. Tu vas trouver l'expert d'un sujet. D'accord. Et comme la plupart des personnes n'enlèvent pas ce setting qui permet de voir les autres pages consultées, tu trouves tous les experts du sujet à la droite.
Ah, tu vas sur un profil et...
Autre page consultée par rapport à ce profil.
Ah, ouais. L'effet Amazon, si vous achetez ça, vous aimerez ça.
Et en fait, du coup, tout le monde a bossé pour toi, ah, oui. Finalement.
Ah bah oui, bah, oui, oui. Non, c'est super intéressant.
Et d'ailleurs, si jamais vous avez besoin des sources, ce qui est bien, c'est que par contre, si vous allez dans Bing et dans Conversation, du coup, j'ai réouvert Edge à cause de ça, t'as une petite page qui s'appelle Conversation dans laquelle c'est le chat GPT de Microsoft, sauf que lui met les sources.
Ouais.
Et moi, je l'adore pour un truc très bête, c'est quand je fais beaucoup de changes et de choses comme ça, et il est très très bon pour convertir d'une monnaie à l'autre à une journée précise avec les sources.
Ouais.
Et ça me change la vie.
Bing, hein. C'est le chat GPT de Bing.
Tout à fait.
Donc il y a chat GPT, version payante à 20 balles.
C'est ça.
Où là, ça te donne le droit à GPT-4 et puis à d'autres choses.
Et les plugins surtout. Les
plugins, maintenant...
J'ai même fait un PowerPoint avec chat GPT.
Oui, tu peux. Avec un plugin, c'est ça.
C'est ça.
Ouais. Là, tu me diras lequel, parce que moi, j'en ai testé 2-3. Pas...
C'est pas ouf, mais tu dis c'est pas mal pour un truc qui part de zéro.
Ouais, bah, si tu retrouves.
Bah, je partagerai.
Ouais. Ah, ouais. Parce que... On met de côté le côté PowerPoint, sinon on va se perdre, mais ChatGPT, après, dans Bing, c'est OpenAI, hein, c'est ChatGPT aussi.
C'est ça, sauf qu'il met les sources.
Sauf qu'il met les sources, et sur Bing, il se connectait à Internet. Il faisait du temps réel, la recherche temps réel. Pendant longtemps, ChatGPT, c'était juste jusqu'en 2021. Là, ils ont replugué avec Internet, il y a une semaine, quoi. Donc, on peut aussi lui demander de chercher des informations fraîches, quoi.
Ouais. Et après, moi, je commence à utiliser aussi Pi, qui est plutôt un chat GPT un peu plus dans l'émotion, qui est un peu ton coach, ton psy.
Je connais pas du
tout. Tu poses beaucoup de questions sur les émotions, je trouve ça assez intéressant.
PI, PI.
Comme PI, ouais.
Ah, ok.
Il n'y a pas encore d'API, mais tu peux aller directement, j'ai l'appli sur mon téléphone.
Ok.
Je trouve ça assez intéressant, c'est un peu une autre approche.
Ouais.
Après, là, moi, ce que je me rends compte, c'est que chat GPT, c'est bien pour les grosses infos, mais maintenant, je pense qu'il faut que j'aille dans les modèles, traîner sur des sets de data beaucoup plus limités. Mm-hmm. Et donc là, là, j'ai deux nouveaux sujets dans lesquels je vais rentrer.
Ouais.
C'est comment je vais dans Hugging Face pour aller prendre un modèle et aller sur des sets de données limitées.
Ouais, tu prends une IA pour te dire comment utiliser une autre IA, quoi.
C'est ça. Et après, sur mon côté plus management, leadership, là, il y a un gros sujet dont je ne comprends pas grand-chose. C'est le management Gen Z, milléniaux, les boomers. Ouais. Et je vois plein de trucs sur Instagram qui circulent. Mmh. Moi, j'ai eu finalement peu d'occasions de faire beaucoup de Melting Pot 2023, des gens qui ont 20 ans, je n'ai pas encore beaucoup travaillé avec eux. Mais je vois quand même que c'est complètement différent parce que là, j'ai aidé ma cousine, par exemple, à corriger son mémoire. Et j'ai beaucoup discuté avec elle. Et là, je me rends compte qu'on n'est pas connecté, on n'est pas sur les mêmes logiques. Ouais. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si on veut faire du management et du leadership, il faut comprendre comment on marche ces différentes générations. Et c'était hyper intéressant parce que le responsable du Master Innovation de Polytechnique me disait que maintenant, son set de cours ne dure même plus de 3 ans. Il est obligé de le changer tous les ans. La génération, maintenant, c'est quasiment à l'année. Je ne sais pas si on se rend compte de la violence du sujet. Ouais. C'est-à-dire que ma génération, c'était 10 ans.
Ouais.
Je pense que les millénials, c'était au moins 5 ans. Tu avais à peu près une génération qui se ressemblait. Je pense que la Gen Z, c'était 2 ans. Et là, si c'est tous les ans, je ne sais pas comment on va faire, en fait. C'est-à-dire que du coup, moi, je suis déjà... Il y a 25 000 générations à connaître, donc je n'imagine même pas la génération au-dessus de moi, les boomers, c'est mort.
Et tu utilises ChatGPT pour comprendre ça?
Non, mais du coup, c'est mon nouveau sujet,
tout lire sur ça. Ouais.
Tout lire sur ça pour comprendre, parce que je réalise que je ne comprends pas grand-chose.
Mm.
Et du coup, je vais aussi voir des Gen Z, des millennials, et on a des conversations surréalistes, parce qu'on voit qu'on n'est pas connecté au même logiciel.
Bah, après, ils sont en prise avec beaucoup d'informations, beaucoup de liquidité aussi d'informations par rapport à nous.
Et puis surtout, à la fin de la journée, je réalise que finalement, jusqu'à mes... 2007, il n'y a aucune trace numérique de ce que j'ai fait. Et c'était quand même très bien.
Ouais, c'est
vrai. Bah, j'ai pu faire la fête en école de commerce, il n'y a aucune preuve.
Non, c'est vrai.
J'ai pu faire des bêtises, aller dans des pays, publier des choses. En fait, tout ça, ça reste... C'est-à-dire qu'on, finalement, on ne se rend pas compte, mais nous, on a eu une enfance loin de toute la technologie.
Ouais.
Et à l'époque, c'était même pas le Polaroid, hein, c'était le Kodak. Donc, tu peux te dire que je ne prenais pas 200 photos quand j'allais en week-end. Hein.
Ouais.
Je me souviens toute ma vie, j'ai fait un mois aux États-Unis, je suis revenue avec 13 pellicules. Mon père m'a privé d'argent de poche pendant 4 mois, parce que ça lui a coûté tellement cher de développer les pellicules qu'il m'a dit plus jamais. C'est la dernière fois, Camille.
Pour le peu que tu t'en ouvres une sans faire exprès et tout, tu perds toute la pellicule.
C'est ça.
Ah, c'était un overtime. Et ouais, bon, après, sur la question de la génération, des outils. Non, mais c'est hyper intéressant. Donc là, tu digues le sujet.
Et je pense que ça va être un grand problème de leadership et de management assez rapidement.
Ouais.
Parce que par exemple, là aujourd'hui, tous les entrepreneurs que j'ai en face de moi quand je suis business angel me disent tout, on ne veut plus prendre d'apprentis. Le coût d'entrée, on ne comprend pas comment ça marche, on ne sait pas comment les manager. Donc là, moi, la plupart des boîtes où je suis mentor ne prennent plus d'apprentis, c'est fini.
Attends, c'est coût zéro, non c'est
pas ça. Oui, mais en fait, ça, pour eux, ça leur apporte. Ils me disent, ça ne m'apporte rien, je ne comprends pas, ça me fait une violence et une charge mentale. Je finis par préférer payer quelqu'un à plein temps. Mmh. Et d'ailleurs,
oui, parce qu'il faut gérer l'emploi du temps.
Et Sylvain Tillon expliquait un truc très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un apprenti, ça coûte, je crois, 434€ par mois. Mmh. Sauf qu'après, tu vas devoir l'embaucher, logiquement, minimum au SMIC, voire plus, que c'est des gens des masters. Mmh. Donc en fait, ça veut dire que tu as un mec que tu payes 434€, que tout d'un coup, tu vas payer 2500€ chargé. Mmh. Et donc, bah, forcément, tu reprends un autre apprenti à la place parce que bah, tu es habitué au bas coût. Mmh. Donc du coup, ces mecs-là, en plus, quand ils arrivent sur le marché de l'emploi, on leur dit, bah non, reste apprenti plus longtemps parce que sinon, je peux pas te garder.
Oui.
Donc ça n'encourage
pas. Vertueux.
C'est pas vertueux. Donc toi, typiquement, je me dis, si je veux aider les entreprises que j'accompagne à être capable de gérer ces gens-là, il faut que je comprenne c'est quoi le sujet.
Ouais,
c'est pour ça que j'étudie ce sujet.
Non, c'est vertueux et c'est la manière d'utiliser le levier quoi, qui est avec la nouvelle génération. Bon, alors nous, là, tu vois, on est en train de diguer, de tomber dans le rabbit hole. On a parcouru déjà beaucoup de choses. Moi, je voulais finir un peu sur tes prédictions. Voilà, c'est un peu comme... On trouve sur Twitter.
Mes prédictions.
Mes prédictions sur, tu vois, comme tu es en veille sur les deux sujets, là, crypto et space, on va dire New Space.
Moi, j'avais...
T'es forcément au cœur du réacteur, donc t'as un sentiment...
Bah, justement, c'est ce que je disais à mes amis vendredi. Je disais, j'ai un peu une prédiction sur l'économie, sur ce qui va se passer dans les différents éléments.
Ouais.
Je me disais, sauf s'il nous tombe une énorme tuile sur la tête, et là, tout va être remis à plat. Mmh. La tuile a lieu ce week-end. Mmh. La tuile étant un understatement. Ouais. Voilà. Et donc, typiquement, là, maintenant, et c'est-à-dire, c'est le problème aujourd'hui, c'est que c'est impossible de faire une prévision parce qu'on a des événements majeurs qui arrivent comme le Covid, comme l'Ukraine.
Et oui, parce que les prévisions, elles marchent avec environnement stable.
Et là, en fait, ça change tout le temps. Et je trouve maintenant que faire des prédictions, même à 6 mois, c'est quasiment impossible parce que les événements sont improbables.
Ouais.
Celui qui te dise non, mais je l'avais vu venir, autant FTX, j'aurais pu te dire que je l'avais vu venir parce que celui-là, en crypto, par exemple, typiquement, moi, j'avais vu venir les événements. En tout cas, moi, je suis très fan de la régulation. Donc. J'ai jamais été sur FTX. Je savais pas qu'il allait faire faillite, mais en tout cas, ouais, voilà. Autant sur le reste, en géopolitique, aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, qui suis très fan de l'économie, je comprends absolument pas ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que normalement, aujourd'hui, la bourse devrait être en récession. Ce n'est pas le cas. Le private equity, aujourd'hui, la plupart des institutionnels vont faire de la dette privée, parce que les banques ne veulent pas faire à 13 ou 15%, donc c'est très intéressant. Donc là, ils arrêtent le private equity. En fait, ils mettent plus d'argent dans les entreprises. Ils disent, à la place, je vais prêter de l'argent à des boîtes à 13 ou 15%. Il y a beaucoup moins de risques que d'aller investir sur une boîte d'AI. Les seules personnes qui aujourd'hui mettent de l'argent comme des fous, par exemple, sur l'AI, c'est des gens qui ont tellement d'argent qu'en fait, ils peuvent se permettre de le perdre. Mais quand tu es une boîte un peu corporate, même pleine de cash, tu es un peu vieux jeu et tu préfères mieux un risque à 13% qu'un risque à x10 parce que aujourd'hui, si on est réaliste, la plupart des boîtes vont à la cave et la mauvaise nouvelle, c'est que les hedge funds ou les fonds de pension américains qui sont dans l'obligation de payer la retraite aux gens qui vont à la retraite tous les ans, à un moment donné, eux, ils ne peuvent pas attendre et dire ça va aller mieux. Ils vont devoir liquider à la casse. Et normalement, quand tu achètes par exemple un fonds de retraite, désolé de la digression, avec une année, au fur et à mesure, ton allocation part très risquée à moins risquée. Sauf que quand tu vois les années et le nombre de personnes en face qui sont dans ces années-là, magiquement, ils vont devoir liquider tout ce qui était risqué et passer à un truc beaucoup moins risqué. Sauf que le marché n'a pas du tout anticipé ça et que tout le monde, en fait, préfère mieux aller à la casse. Là, les gens préfèrent mieux aller à la cave, c'est-à-dire prendre des décotes de 20 ou 30% plutôt que d'attendre en espérant que ça soit moins pire bientôt.
Des risques complètement, enfin, ils prennent...
Bah, c'est juste que tu n'as pas d'obligation. Quand tu dois, t'as une obligation, quand tu dois payer tes retraités,
il
faut payer. Hein.
Donc toi, la prédiction, c'est...
J'ai pas de prédiction, c'est ça qui...
C'est que t'as pas de prédiction, peut-être s'intéresser à la géopolitique, du coup.
Par contre, c'est pour ça que je m'intéresse de plus en plus à la géopolitique, parce qu'on
parce
voit...
Parce qu'il y a des énormes impacts, quoi.
Bah, et moi, le seul truc qui m'intéresse énormément, et je pense que les gens ne mesurent pas l'impact, c'est l'effet BRICS. À partir du moment où le BRICS va créer sa monnaie commune, même s'ils ont beaucoup de tensions à l'intérieur, ces gens possèdent 80%, ce groupe possède 80% du pétrole. On a beau dire que ce n'est pas très à la mode, aujourd'hui c'est encore très à la mode. Et puis surtout, ce groupe possède beaucoup de la dette dans le monde. Si un jour, à un moment donné, la Chine décide de récupérer la dette qu'ils ont en Afrique ou la dette qu'ils ont aux États-Unis, ça va au tapis. C'est-à-dire que, par exemple, le Sri Lanka aujourd'hui est en récession complète parce qu'à un moment donné, les Chinois ont dit « je récupère ma dette ». Et ils disent pas, non, non, comme les Américains, on vous l'offre, on annule 50%, c'est donnez-le-moi.
Oui.
Et donc, typiquement, je pense qu'à qui appartient la dette, ça va être hyper important. Et puis aussi, on voit aujourd'hui que comme le monde change très vite, toutes les doctrines sur l'inflation, sur l'économie, ça n'a pas de sens qu'on n'a même pas le temps de voir les effets, que genre toutes les variables ont changé. Donc en fait là on peut plus vraiment jouer les anciennes recettes dans le monde actuel, et je pense que ça déstabilise complètement le sujet, et je pense qu'il y a à peu près personne qui est équipé face à ça, et je pense que la seule solution ça va être de faire du big data et d'aller essayer. D'ailleurs tu vois, je vais donner deux exemples d'IA peut-être pour finir qui vont te faire sourire. Le Pentagone a créé un IA qui s'appelle Game Changer, qui permet de comprendre comment son budget est construit. T'imagines, ils ont créé leur propre intelligence artificielle pour que les militaires puissent l'interroger et dire pourquoi j'ai tant de budget à tel endroit, il va où, comment ça se fait, c'est quoi les règles.
L'utilisation en knowledge management.
C'est ça.
Quoi,
ouais. Mais pour te dire la complexité de millefeuille. Et de la même manière, la BCE vient d'annoncer qu'ils ont demandé à des gens en IA d'essayer de faire trouver des données, d'essayer de comprendre ce qui se passe, que là, eux-mêmes sont dépassés par la situation économique et essayent de voir des tendances apparaître. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit plus à la une. Et les gens qui te disent autre chose, c'est des Madame Irma. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de données, et tellement en plus de données fausses disponibles, que en fait, c'est un vrai sujet.
Donc, sur la partie prédiction, il n'y a pas de prédiction. Deux, intéressez-vous à la géopolitique. Vous aurez peut-être une chance de comprendre un peu ce qui se passe dans la tech en général. Et trois, si vous voulez faire de la prédiction, il y a l'intelligence artificielle qui arrive.
Il va en tout cas voir des tendances arriver, mais il ne fera même pas de la prédiction. Parce qu'à la fin de la journée, il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est juste une probabilité statistique de trouver le mot suivant. Ouais. Ce n'est pas de l'intelligence. Ça, il ne faut pas l'oublier.
Ouais. Alors après, a priori, Altman aurait annoncé qu'on arrive sur de l'AGI. Ouais,
Oui, et puis surtout, il y a un papier hyper intéressant de recherche qui est sorti dans Science Étonnante, qui s'appelle sur le Groking.
Les show notes, ça va exploser. Là.
Le Groking, c'est hyper intéressant. C'est que C'est quand un modèle IA surapprend, normalement, au bout d'un moment, il va dans la disqualité. Et il y a des modèles qu'ils ont oublié d'éteindre la nuit. Donc, il a surappris. Et à un moment donné, il est devenu à un niveau de parfaititude, c'est pas le bon mot, j'imagine, de 95 ou 96%, ce qui, normalement, n'arrive pas.
D'accord.
Au bout d'un moment, non, il plafonne. Et là, en fait, il y a un moment au milieu où il est dans la choucroute, donc il fait que de la daube. Et après, il est tellement parfait. Et donc là, la supposition, c'est que là, l'idée de Stamelman. Là, en fait, à un moment donné, il se passe un truc dans l'IA qui fait qu'il passe au next level, mais qui ne nous explique pas comment il l'a fait.
Ouais, c'est plus qu'une black box, là. C'est
En fait, c'est à quel moment, là, on n'est pas déjà potentiellement sur un pseudo-sujet dans la GI. Et d'ailleurs, si vous voulez plus comprendre l'intelligence artificielle, il y a eu un épisode avec Laurent Alexandre dans Generation Do It Yourself, où il expliquait un peu les différentes notions. Et c'est vrai que là-dessus, je le rejoins. Je pense qu'aujourd'hui, c'est incapable. Celui qui est capable de se faire des vraies prévisions, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans un hedge fund, la période sonne la plus payée, ce n'est pas les portfolio managers, les gens qui font des stratégies, c'est le chef économiste qui a des millions de personnes analystes et qui est capable de te lire l'économie avec des signaux faibles hallucinants. Et moi, j'ai eu la chance de bosser pour un de ces fonds pendant une certaine période. Et la personne n'annonçait pas du tout ce qu'annonçait le mainstream. Et il s'est plutôt pas trompé.
D'accord.
Sur des faits économiques comme la chute des bons d'anglais ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, c'est des gens qui vont lire l'évident, le dur, tu vois. Ce qui, à la fin, ne vont pas croire la newsletter Twitter, mais qui vont aller dans le bilan du beurre, lire les petites lignes, additionner les cases ensemble et dire « Tiens, il y a un truc bizarre qui se passe, là.
» Bah écoute, c'est un gros stack, j'ai envie de dire. Non, merci beaucoup. Alors avant de se quitter, on pourrait s'intéresser aussi à ton stack loisirs, si je sais pas, est-ce que tu regardes des séries, est-ce que tu...
Ben justement, j'ai réfléchi là-dessus et je me suis dit que j'aime beaucoup des séries où il y a une idée d'enquête, tu vois, où on résout quelque chose dans un collectif. Moi, j'adore les séries médicales. J'ai une petite histoire d'amour à côté à la fin de la journée, donc ça te détend un peu. The Good Doctor, je suis hyper fan, sur un médecin qui est autiste. Dr. Grey's Anatomy. Les fins, les dernières saisons. Là où on était vraiment dans les problèmes médicaux, tu vois, genre j'ai des problèmes de mutation de gènes et tout ça.
Et tu connais Scrubs ?
Non.
Oh là là.
Ouais, c'est anglais, j'ai vu 2-3 épisodes, mais
c'est magnifique, c'est vieux. Hein, ça.
Ah oui, c'est
ça. C'est tellement... Ouais, il y a des séries qui m'ont fait rire dans ma vie. Je ne sais, Scrubs.
Oui,
enfin, il y en a plus que ça, mais...
Fred, une série que j'ai bien aimée, c'était...
Et Scrubs, c'est dans l'hôpital, hein, c'est pour ça que je te...
Ouais, t'as Upload, hyper intéressant sur t'upload ton cerveau. Quand tu meurs, t'upload ton cerveau dans un monde virtuel. Et selon les crédits, l'argent que tu as, tu peux faire plus ou moins d'activités et acheter plus ou moins différentes choses. C'est hyper intéressant.
C'est sur quoi, ça ?
C'est quel réseau ?
Ouais, quel...
Amazon.
Amazon.
Et un que j'adore, c'est Billions. C'est une série sur les hedge funds avec un psychiatre au milieu qui un peu aide les hommes à performer plus. Et c'est le hedge fund dans toute sa beauté, tout, où tu peux aller au bout du sujet.
Ouais.
C'est vraiment la société américaine où je vais réussir. Avec d'un côté très vertueux et d'un côté tu peux aller au délai d'initié. T'as le scope est gigantesque.
C'est intéressant. C'est Amazon aussi, ça.
Billions, Canal+. Et puis aussi All Mankind.
Ça, ça vient pas d'HBO ou des trucs comme ça, non c'est...
Peut-être, mais c'est moi, je l'ai par Canal+.
Parce que les meilleures séries, en fait, elles sont pas sur les plateformes.
Ah ben non, mais d'ailleurs, moi, en plus, comme je n'aime pas payer les séries, j'ai un compte iTunes aux États-Unis, ouais. Donc je paye mes séries aux États-Unis.
D'accord.
En fait, j'ai une Apple TV, petit truc, qui vont faire plaisir. Ouais. Quand vous voulez avoir plusieurs comptes iTunes dans des pays différents, le seul endroit où Apple ne vérifie pas dans quel pays tu es, c'est l'Apple TV. Donc sur mon Apple TV, j'ai mon compte iTunes anglais, iTunes américain, français. Donc, et je bascule d'un pays à l'autre. Et donc, si je paye, j'ai accès aux trois pays. Et comme je n'ai pas forcément de carte bleue dans tous les pays, ce qui est le cas aux États-Unis, j'ai un...
Donc, t'as accès. Ah oui, d'accord.
Et bah, je demande à mes cousins qui habitent aux États-Unis de m'acheter des cartes Apple pour le store.
Ouais.
Je recharge en redeem et après, je paye ma série.
D'accord.
Et sauf que le problème de souvent quand tu passes d'un pays à l'autre, c'est que tu es limité à 90 jours.
Ouais.
Sauf sur l'Apple TV. Tu peux basculer d'un pays à l'autre le même jour.
Ça, c'est l'astuce. Ça, c'est... Ah ouais, mais sinon, tu t'entends.
Sinon, t'es bloqué 90 jours dans un pays.
Oui, voilà, t'es bloqué.
Et d'ailleurs, ça marche même à l'étranger. Tu peux regarder Canal+, là-dessus.
D'accord.
Moi, par exemple, quand je vais en Angleterre, je pars avec mon Apple TV. Comme ça, je peux regarder Canal+.
Ça s'emporte partout, ouais. Et donc là, c'est quelques séries. Toi, donc, t'es très connecté dans ta maison. Avec Siri, notamment, t'as tout...
J'ai volet. Ouais. Tu vois, par exemple, quand j'arrive chez moi, la lumière sera allumée, mes volets seront baissés. Le matin, je me réveille avec la lumière... Moi, tous les matins, je me réveille avec le journal de France Info. Les nouvelles du jour, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, je l'ai fait pendant très longtemps, puis j'ai arrêté. Et là, je m'y suis remis et je trouve que énormément de mes amis qui ne suivent pas ce qui se passe dans les nouvelles parce qu'ils me disent que c'est trop anxiogène et parce qu'ils ne savent pas comment faire.
Ouais.
Et moi, je dis aux gens, si vous voulez être au courant de ce qui se passe, je comprends que vous ne vouliez pas aller au hasard ou aller lire sur un Figaro, Le Monde, de quoi. Mettez-vous sur un France Info, prenez-vous juste le journal de 8 heures et au moins, vous saurez... Et vous éviterez de faire des énormes gaffes à vos collègues en lui disant « Mais pourquoi tu ne m'as pas répondu à mon mail alors que la personne, l'entreprise, est en Israël ?»
Ouais, tout à fait. Ouais. Non, mais je pense que c'est l'obligation d'être abonné à
Mais tu serais étonné.
Quand tu bosses, quoi. Enfin...
Dans mon entourage, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont toujours pas réalisé ce qui se passe.
Oui, pourtant, ouais. T'as des routines un peu? Des routines un peu mindfulness ou pas du tout? Des trucs qui font que tous les jours...
Alors, j'essaye de marcher, ça, maintenant. Et j'essaye aussi de créer certains rendez-vous avec mes clients. Je leur dis, bon, je vais marcher. Donc, vous aussi, si vous voulez faire la même chose, faites-le. Parce que j'essaye de marcher par jour, sinon c'est mort.
Ouais.
J'ai la grande chance d'avoir un coach de sport qui vient une fois par semaine où je fais un peu de boxe, voilà.
Ouais.
Donc ça me fait beaucoup de bien. Moi, je suis une énorme fan d'art.
Okay.
Donc, je vais voir beaucoup d'expos. Toi, ce week-end, j'étais au jardin de Claude Monet à Giverny.
Encore fait celui-là.
Hyper beau. Là, il faut y aller en plus, parce que c'est n'importe quoi, c'est décalé, il n'y a pas trop de monde. Il faut vraiment y aller. Tu vois, là, ce week-end, je vais aller à Honfleur voir des galeries. Moi, j'aime bien essayer de. Quand je peux. Là, il y a l'expo extraordinaire, à mon avis, de Vincent Van Gogh d'Auvers. Il y a celle qui ouvre la Fondation Louis Vuitton de Rocco, que j'ai déjà vue à Londres, mais qui doit être pas mal non plus.
Ouais.
Après, moi, j'ai cette grande chance, c'est que quand j'ai fait mon tour du monde, le thème de mon tour du monde, c'était le train, le space et l'art.
Ouais.
Donc, dans tous ces pays-là, j'ai fait par exemple l'Ermitage, qui est un des plus beaux musées au monde.
Ouais.
J'ai dû y passer 2 jours. Et donc, quand l'exposition qui est arrivée à Louis Vuitton sur les fameux tableaux des Holocaustes russes est arrivée, j'étais hyper déçue parce que j'avais déjà tout vu à l'Ermitage. Donc voilà, mais c'est parce que j'ai eu cette chance, c'est parce que j'ai une passion pour l'art, parce que je peins à côté, j'écris des poèmes, voilà. Moi, j'ai besoin à côté d'avoir ça pour un peu des moments, tu vois, où ton cerveau décroche.
Ouais. Bah écoute, là je sais pas quoi te dire sinon que cette interview était super généreuse. Merci beaucoup Camille. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Camille, je te remercie encore et puis je vous dis à un prochain épisode sur TechSource.
Merci beaucoup Alex.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour accéder aux sources de nos invités ainsi qu'aux transcriptions complètes et recevoir chaque nouvel épisode par email, alors une seule adresse, un seul chemin, rendez-vous sur techsource.io. En vous inscrivant gratuitement à la plateforme, vous débloquerez l'accès à toutes les ressources des épisodes de ce podcast. Enjoy !